Nous allons maintenant écouter Sylvie Tissot, qui va nous parler des origines de la ville néolibérale, les luttes politiques et culturelles de la gentrification à Boston. Sylvie Tissot est professeure ici à l'Université Paris 8 au département de sciences politiques et elle travaille sur les politiques urbaines et les transformations des grandes villes françaises et américaines, des quartiers d'habitat social aux quartiers dits gentrifiés.
Alors, je vais poursuivre la discussion sur le lien entre questions raciales, questions urbaines et néolibéralisme à travers le phénomène de la gentrification. Bon, pour rappel, la gentrification, on peut la définir comme le processus à travers lequel des ménages appartenant aux couches moyennes et supérieures s'installent dans des vieux quartiers populaires de centre-ville, réhabilitent l'habitat vétuste et dégradé et remplacent progressivement les anciens habitants. Certains auteurs, surtout des géographes, comme Neil Smith par exemple, voit dans la gentrification un phénomène généralisé et surtout le résultat d'une politique urbaine soumise aux impératifs du néolibéralisme. Et pour lui, en tout cas, il suggère une chronologie en trois étapes. On aurait d'abord une vague de gentrification plutôt sporadique, portée par des artistes, des intellectuels, dans les années 50-70, suivi dans une deuxième phase par une extension du phénomène à d'autres quartiers, à la fin des années 70 jusqu'à la fin des années 80, sous l'effet de l'intervention des promoteurs immobiliers. Et puis, on aurait ensuite une troisième phase, une généralisation de la gentrification au milieu des années 90, touchant des quartiers non centraux et planifiée par les pouvoirs publics, travaillant directement avec le marché privé. Et pour Smith et d'autres, la gentrification serait l'expression accomplie du néolibéralisme, le révélerait en quelque sorte. Il y aura un jeu de miroir. Alors, ce que je vais faire dans cette communication, c'est déjà, après Chicago et après Los Angeles, vous proposer un déplacement géographique vers la côte Est, vers la ville de Boston. Et puis, je vais aussi, dans la suite aussi de ce qu'ont présenté Mary et Donna, questionner l'intérêt de ce modèle de la ville néolibérale et notamment de la périodisation qu'il suggère, à partir donc de travail que j'ai fait sur la gentrification à Boston. Donc, je reviendrai d'abord sur l'approche que j'ai mobilisée. Que d'ailleurs, je n'ai pas formulé directement en termes de ville néolibérale. Ce n'est pas forcément un concept que j'utilise vraiment directement. On pourrait y revenir dans la discussion. Et puis, dans un deuxième temps, j'expliquerai comment cette approche m'a amené à mettre l'accent sur le rôle de certains agents permettant de penser ensemble, il me semble, des transformations économiques, culturelles et politiques. Et puis donc, je terminerai en revenant sur cette question de périodisation, sur la période pertinente. Alors, je vais d'abord présenter, et j'ai essayé de le faire pas trop longuement, le travail que j'ai fait sur la gentrification donc dans un quartier de Boston qui s'appelle le South End. En fait, ce que j'ai cherché à comprendre, c'est les conditions qui ont rendu possible l'appropriation de cet espace, donc d'un quartier populaire de la ville par un nouveau groupe. Comment un nouveau groupe s'approprie un espace. Et pour ce faire, j'ai analysé sur plusieurs décennies, donc à partir des années 60, l'émergence d'une élite, d'une nouvelle élite, qui ne préexiste pas aux transformations du quartier, mais qui se constitue à la faveur de migration vers ce quartier pauvre de Boston. En gros, l'idée, c'était plutôt que de voir dans la gentrification l'espèce de conséquence mécanique de l'arrivée de nouvelles populations riches, etc. En fait, je suis partie de l'idée que la gentrification était liée à cette emprise que ce groupe a pu opérer et qui, en fait, ne se limite pas à une emprise économique. Alors, d'abord, elle résulte du contrôle qui a été conquis avec l'appui municipal sur la rénovation du quartier. J'y reviendrai. Donc c'est un contrôle qui a été rendu possible dans un contexte où, délaissant les politiques de rénovation urbaine, hein, de démolition qui ont été mises en place après la Seconde Guerre mondiale, les municipalités, certaines municipalités progressistes, hein, comme Boston après 68, vont s'engager dans des formes nouvelles de gestion urbaine ouvertes à la participation des habitants. Là, je vais peut-être anticiper un peu sur la thématique de l'après-midi. Et de nouveaux habitants blancs, pour l'essentiel, hein, attirés par ce quartier de centre-ville, vont s'y investir, hein, vont s'investir dans ces nouveaux lieux de la participation des habitants, y construire une légitimité particulière, hein, une autorité morale, reposant sur la valorisation de la diversité. En d'autres termes, j'ai analysé l'émergence d'un groupe social, hein, doté de ressources évidentes. Ce sont des habitants, hein, des classes moyennes supérieures, mais partageant certaines valeurs, hein, certains styles de vie. Donc des classes moyennes supérieures tolérantes, hein, amatrices de multiculturalisme, tournées vers leur quartier, hein, la vie du quartier, éprises de philanthropisme et entrepreneuses de diversité. Et pour faire ce travail d'enquête, hein, sur l'émergence de ce groupe, je me suis centrée sur ces porte-paroles, hein, à travers donc les associations locales où ils s'engagent, où ils se sont engagés. Alors, de ce point de vue, si j'avais en fait une référence marxiste ou néo-marxiste à avancer, en fait, ce serait pas tellement Neil Smith, hein, en fait, mais plutôt E.P. Thompson, hein, l'historien. Pourquoi ? Parce que ce qui m'a intéressé dans cette référence, eh bien, c'est en fait le questionnement, hein, du caractère économiciste de certaines lectures marxistes qui occultent les processus longs, hein, non linéaires de formation des groupes sociaux. Et il me semble que cette perspective est assez heuristique, hein, pour comprendre la gentrification. Hein, et si je paraphrase l'historien E.P. Thompson, pas plus que le capitalisme ne crée mécaniquement la classe ouvrière, hein, et donc E.P. Thompson s'est attaché, hein, à faire l'histoire de la formation de la classe ouvrière, eh bien pas plus que le capitalisme ne crée mécaniquement la classe ouvrière, le néolibéralisme ne fait surgir le gentrifieur. Hein, une sorte de groupe, hein, qui surgit comme ça d'une certaine forme de capitalisme. En fait, c'est par un travail politique de mobilisation, hein, qui s'opère à travers des expériences quotidiennes que se forment les classes et les fractions de classe. Et c'est le cas de cette fraction de classe que j'ai étudiée. Et donc l'enquête que j'ai faite sur la formation de ce groupe, eh bien, ne s'est donc pas limitée à leurs ressources économiques, mais aux ressources, on pourrait dire, plus proprement politiques, hein, avec ce tournant participatif qui a ouvert le jeu municipal. Et c'est un moment pour moi charnière, quand les mobilisations contre le remodelage autoritaire des villes, hein, par le bulldozer, hein, souvent connectées aux mouvements sociaux des années 60, ont contraint les pouvoirs publics à reculer. Et finalement, à consulter la population pour poursuivre la rénovation des centres dégradés. Or, cette participation, hein, a été mise en œuvre en s'appuyant sur les habitants les plus dotés, donnant lieu à une véritable cogestion des espaces qui se poursuit aujourd'hui, hein, à travers le contrôle des opérations immobilières et commerciales et surtout des espaces publics. Hein, cogestion, c'est pour ça que j'utilise le terme d'élite, en fait. Et c'est donc cette nouvelle politique locale qui a permis à un groupe d'habitants aisés d'imposer leur manière de rénover la ville, qui leur a aussi ouvert des lieux pour s'organiser, construire une culture commune, un style de vie particulier, hein, bref, se constituer en groupe légitime. Ce style de vie, il se déploie dans les sphères locales, à la fois associatives et commerciales, qui entretiennent d'ailleurs des liens étroits. La consommation est au cœur de la vie de ces habitants des classes moyennes supérieures. Hein, chaque nouveau restaurant, hein, traduction de leur niveau de vie et d'un projet résidentiel, fait l'objet d'innombrables discussions et évaluations, hein, à propos desquelles j'étais d'ailleurs souvent sollicitée pour donner mon avis lors de l'enquête. Des pratiques qui traduisent des goûts classés et classants, qui disent l'amour de cette clientèle pour le cosmopolitisme, mais aussi les dégoûts indissociablement culinaires et sociaux que suscitent les minorités raciales. Les Noirs et les Latinos restent en effet un des groupes stigmatisés, et leur présence trop visible, l'expression de leur culture dans l'espace public, ainsi que leurs possibles revendications, suscitent de nombreuses craintes. Alors, cette peur raciale n'a rien de nouveau. Il me semble que ce qui s'invente dans ces quartiers mixtes, c'est une manière inédite de la gérer. Le projet résidentiel, qui est porté par ses propriétaires blancs, en décalage avec un certain mode de vie bourgeois, s'est en effet rapidement transformé en un projet moral d'organisation et de contrôle de la diversité, donc mot d'ordre qui s'impose dans les années 90 et 2000. Alors, vous l'avez compris, plutôt que de voir dans ce groupe de gentrifieurs la traduction mécanique dans la hiérarchie sociale d'une forme renouvelée de capitalisme, ce qui est la manière dont on pourrait l'analyser dans un schéma, on pourrait dire, néo-marxiste. En fait, je m'inscris dans une analyse plutôt relationnelle, processuelle des classes sociales. Et en fait, c'est ce qui m'a conduit à mettre l'accent sur un type d'agent particulier. Et je vais l'illustrer à travers un groupe local particulier qui est la Société historique du South End. A priori, très loin du néolibéralisme. Alors, qui sont ces membres de la Société historique du South End ? En fait, dans les années 70, à Boston et dans d'autres villes des États-Unis, en Europe aussi, tout un travail de requalification s'est opéré à travers la promotion du goût pour l'architecture victorienne. C'est là que j'aurais pu avoir un PowerPoint, mais l'architecture victorienne du milieu du 19e siècle, qui est en fait la période lors de laquelle le quartier du South End a été construit, initialement pour des classes marchandes, avant qu'il ne soit investi par des ouvriers et des immigrés. Alors, un siècle plus tard, donc à la fin des années 60, dans les années 70, des habitants qui rejoignent la société historique, pour beaucoup des agents immobiliers d'ailleurs, vont façonner une nouvelle image du quartier, en mettant en avant la beauté de l'architecture, la beauté des moulures, la beauté des hauts plafonds. Et la société historique, donc qui est créée en 1966, organise des conférences, organise des visites de maisons anciennes, écrit des brochures pour promouvoir cette architecture victorienne. En 1983, donc suite à l'action de cette société historique, le South End est reconnu district historique, c'est le label officiel, donc qui permet au quartier d'échapper à toute destruction. Pourtant, cette entreprise culturelle est indissociablement politique et économique. Et c'est ça ce sur quoi je voudrais mettre l'accent. Alors, comme je le disais, le maire qui est élu à Boston en 1968... affiche son intention de mettre en place un gouvernement municipal moderne, ouvert à la concertation. À cette époque-là, d'importantes subventions fédérales sont disponibles pour mettre en œuvre le plan de rénovation du South End, qui a été voté en 1965. Et l'outil de l'expropriation permet à l'agence municipale de constituer d'importantes réserves foncières. Tout ça ouvre une période de très forte conflictualité et de très forte incertitude, puisque les associations de quartier, les églises, les centres sociaux, les groupes militants forment un milieu très très actif et en lutte pour peser sur le futur du South End. Moment de conflictualité nourri par, bien sûr, le mouvement des droits civiques et toute la mobilisation ensuite contre la guerre du Vietnam, qui va être très très forte dans la ville de Boston. Alors, dans ce champ militant, dans cet espace militant, la société historique, on pourrait dire, est située au pôle le plus conservateur. C'est la structure la plus puissante de propriétaires blancs, d'ailleurs la cible des militants de l'époque, notamment des militants noirs de l'époque. En 1974, par exemple, les membres... oui, parce que j'ai oublié de vous dire que la société historique organise tous les ans un bal hein, souvent déguisés dans des costumes d'époque, victoriens évidemment. Donc les membres du bal sont accueillis au cri de « Stop the Victorian Criminals ». South End Historical Society is an upper class Ku Klux Klan. Alors, à cette époque-là, le quartier du South End a commencé à changer. Hein, le revenu médian a commencé à augmenter. Mais le South End reste composé de 39% de Noirs, de 7% d'Hispaniques, avec une augmentation sur la décennie, ils n'étaient que 1% en 1960. 13% de Chinois, ils n'étaient que 2% en 1960, tandis que la population blanche, en fait, a décliné en raison du départ des habitants les plus pauvres. Donc le futur du quartier, même si on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, quand on connaît le caractère très gentrifié et même super gentrifié de ce quartier, en fait, le futur du quartier reste très incertain. Surtout que le plan de rénovation urbaine prévoit la construction de logements sociaux. De logements pour les populations les plus pauvres. Pour la société historique, pour les agents immobiliers, je reviendrai aussi à leurs caractéristiques sociales, mais pour les agents immobiliers qui sont très actifs dans cette société historique, il est urgent de stopper ces constructions qui risquent de mettre en péril l'augmentation des prix dans le quartier. Alors, quelle est l'action que mène cette société savante ? Eh bien, il s'agit d'abord d'écrire l'histoire du quartier. D'écrire l'histoire du quartier, l'histoire officielle du quartier, qui a évidemment une dimension très, très politique. Alors, quelle est l'histoire qui est racontée ? Eh bien, cette histoire permet de réaffirmer la légitimité des... d'affirmer la légitimité de ces nouveaux habitants. À la splendeur victorienne du milieu du XIXe siècle, on oppose le déclin de la fin du, siècle, évoqué pudiquement, tandis qu'on annonce la renaissance urbaine. Et de ce fait, les populations immigrées et pauvres qui s'y sont installées à partir des années 1880 sont reléguées dans une invisibilité symbolique au profit d'une nouvelle figure, le pionnier. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est symbolique, mais le symbolique, évidemment, a des très forts effets politiques. Au même moment, les membres de la société historique se lancent dans une série de procès au nom de la défense du patrimoine historique, c'est au nom de l'environnement et au nom de la défense du patrimoine historique, pour empêcher la construction de logements sociaux. Alors, certes, en 1974, l'agence municipale a annoncé qu'elle ne donnerait plus la priorité aux logements sociaux. Et cette décision intervient dans un contexte de retrait de l'intervention fédérale. Il me semble pourtant qu'on ne peut pas comprendre ce retrait seulement comme une conséquence des progrès du néolibéralisme. L'entreprise menée par la société historique a, durant cette décennie précédente, 65-75, contribué à la véritable construction d'un marché immobilier. Pour dire construction économique, mais construction sociale, culturelle de ce marché, qui va nourrir, dans les décennies suivantes, la gentrification accélérée du quartier. Alors, qu'est-ce que j'entends par construction du marché ? En fait, j'entends la manière dont la société historique va participer en promouvant un nouveau goût à l'émergence d'une nouvelle demande. Alors, ces agents immobiliers du South End, qui sont en fait des habitants qui s'installent dans le quartier, qui montent leur petit business chez eux, ils sont opposés à une destruction des bâtiments anciens, qui d'ailleurs ferait venir sur le marché des promoteurs bien plus puissants qu'eux. Ils ne peuvent accroire l'offre. Ils sont donc amenés à jouer sur la demande en, et je cite une des lettres d'information de la société historique, en contribuant à changer l'image du South End à l'extérieur auprès de ceux qui pensent que c'est toujours un gigantesque skid row. Tout dit. Et cette image, il s'agit d'isocialiser de potentiels acheteurs, notamment lors des tours du quartier qui sont organisés annuellement, et les destinataires de ces visites sont bien sûr les classes moyennes et supérieures, alors installées en banlieue. Il s'agit de les persuader du charme et à terme de la valeur supérieure que les moulures, que les escaliers, que le fer forgé peuvent avoir par rapport à l'uniformité de leur pavillon et l'ennui qui régnerait dans les banlieues. Alors, je vais en venir maintenant, et pour terminer, sur cette question de la périodisation. Et justement, de ce que l'importance des enjeux qui marquent la décennie 65-75 appelle comme réflexion, il me semble, sur le modèle de la ville néolibérale. Alors, dans cette littérature, mais en même temps, c'est une littérature très vaste et qui varie selon les disciplines, aussi selon les pays, et peut-être qu'il faudrait avoir aussi une discussion sur ça. En tout cas, dans une littérature, je pense essentiellement de sciences politiques, la chronologie s'articule en fait à l'évolution des modes d'intervention étatique, qui seraient passés en plusieurs étapes d'une action fondée sur la redistribution et la régulation vers la recherche de compétitivité. Donc il y aura une rupture entre un modèle fordiste ou keynésien et un après, celui de la remise en cause des attributions traditionnelles de l'État social, une sorte de concurrence généralisée à laquelle se soumettraient les villes. Alors, bien sûr, le tournant des années 90 est décisif pour la gentrification à Boston. Un nouveau maire est élu en 93, dans le contexte d'une diminution brutale des subventions fédérales, et dans ce qu'on appelle les villes entrepreneuriales, eh bien, les maires donnent la priorité au développement commercial. Et ça va accélérer toute la rénovation d'une partie du South End qui était en fait la partie anciennement industrielle, alors en friche. Donc ça va étendre la gentrification vers le sud-est. C'est aussi à cette période qu'entrent en scène les grandes firmes immobilières, qui vont se substituer à ces agents immobiliers dont je parlais, qui en fait travaillaient de façon assez artisanale. Pourtant, là encore, l'accélération de la gentrification ne résulte pas d'une mécanique purement économique, et les mobilisations locales jouent un rôle très important. Sur cette partie, d'ailleurs, de ce quartier, toute la mobilisation qui a été menée dans la deuxième partie des années 70 pour faire fermer les bars les plus malfamés, une mobilisation en fait qui a été très largement oubliée, en fait rend possible l'émergence d'une nouvelle scène commerciale. Bon. En fait, j'insiste sur cette période 65-75, non pas tant parce qu'il serait posé les prémices de la remise en cause de l'interventionnisme public. Je crois surtout que s'y invente un nouveau modèle de vie en ville, porté par un groupe social fortement mobilisé et qui va marquer de son empreinte les espaces urbains des grandes agglomérations. Et durant cette décennie, l'investissement de ces nouveaux habitants dans les associations locales se fait au nom de normes urbaines reposant sur un goût architectural nouveau, mais au-delà sur une certaine vision de la ville. Alors bien sûr, les brownstones, cette fameuse architecture est prisée, mais plus largement, les quartiers centraux anciens, denses, leur vie, leur rue, leur vie commerciale et leur diversité. Alors, réappropriés par ces habitants des classes moyennes supérieures, ces nouveaux mots d'ordre vont accompagner la gentrification des années ultérieures. Pour autant, ils ne naissent pas d'un amour du marché, d'un rejet de l'interventionnisme public, loin de là. En fait, il me semble que pour comprendre comment ils s'imposent, comment ils naissent d'ailleurs et comment ils s'imposent, il faut revenir au mouvement de conflictualité des années 60, au bouleversement des hiérarchies sociales et raciales qu'ils génèrent et aux réactions non moins violentes qu'ils suscitent. Alors, je vais terminer en revenant un peu sur les propriétés sociales de ceux que j'appelais cette nouvelle élite, assez rapidement. En fait, ces associations de quartiers du South End, où s'investissent très fortement ces nouveaux habitants à la fin des années 60, à un moment donné où la municipalité les suscite pour participer à la rénovation du quartier, eh bien, ces associations vont attirer des résidents exprimant une sensibilité aux questions raciales, des résidents blancs exprimant une sensibilité aux questions raciales, mais rebutés par la radicalité des mouvements sociaux. Et ce, dans un contexte en fait, de très forte polarisation militante. Je parlais notamment de la société historique, mais aussi on est dans un mouvement de très très fort activisme. Un grand nombre de ces libéraux effrayé de ce qui est devenu la lutte des droits civiques au Nord, à partir de la deuxième moitié des années 60, s'en éloigne progressivement. Le discours, les revendications du Black Power apparaissent à beaucoup comme exagérées. Et ce qui va se condenser plus tard dans ce mot d'ordre de la diversité prend aussi sa source dans cette réaction politique. De nombreux habitants qui arrivent dans le Sausen dans les années 60 et surtout 70, ces nouveaux, on pourrait dire, gentrifieurs, en rupture pour certains avec le mode de vie états-unien traditionnel et la ségrégation raciale qu'ils condamnent, font montre d'une bonne volonté sociale, partagent la même croyance dans une transformation rendue possible par une gestion politique éclairée. Et de fait, se reconnaissent souvent dans l'action du maire élu en 1968. La confrontation soudaine aux classes populaires, la proximité avec les populations noires et hispaniques, vont toutefois accélérer leur engagement dans ces associations de quartier où s'inventent de nouveaux rapports à l'autre. Une valorisation de la diversité qui s'accompagne d'efforts stricts pour la contrôler. Alors pourquoi finalement insister sur la contestation des politiques urbaines de l'après-Seconde Guerre mondiale et sur la critique sociale des années 60? Parce que de ce moment naît un groupe mobilisé au sein d'une fraction particulière des classes supérieures, dont les valeurs vont être étroitement liées à des intérêts économiques, bien sûr ceux des agents immobiliers, bien sûr ceux des restaurateurs, qui vont favoriser la gentrification, sans leur être réductibles. Et je crois que plutôt que de poser le néolibéralisme comme une cause qui détermine les rapports sociaux, eh bien, il me semble que l'attention qui est accordée aux mobilisations sociales dans des contextes historiques donnés éclaire son émergence et permet d'observer empiriquement les formes singulières qu'il prend. Merci.